Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Denis.
Salut Bart.
Écoute, je suis trop content d'être là ce matin et de te rencontrer. Bah, comme je te disais, ouais, je crois qu'on s'est... C'est même sûr, on s'est serré la main en 2017 à Aix-en-Provence. Donc,
c'était hier.
Ceci ne nous rajeunit pas. Et ouais, à l'époque, t'avais fait deuxième sur cette version de d'Aix et tu l'as refait quelques fois. Et... C'est une belle ville.
C'est une très belle ville.
Et c'est un moment, ce que j'ai découvert à Aix-en-Provence, c'était mon premier Alpha Ironman, c'était la proximité justement avec les athlètes élites, les athlètes pros, cette ambiance un peu globale que j'ai trouvé très cool. Donc je suis hyper content d'être là aujourd'hui. J'ai l'impression de revenir quelques années en arrière. T'es prêt ?
Je suis prêt.
Allez, nickel. Alors la toute première question que je pose, c'est un peu pour savoir un petit peu qui t'étais quand t'étais enfant, te découvrir un peu mieux, créer aussi de l'empathie avec les auditeurs et les auditrices qui te découvrent, même si je sais que plein d'entre eux vont te connaître parce qu'il y a beaucoup de triathlètes qui suivent Extraterrien, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors j'ai plusieurs premiers souvenirs, j'arrive pas à les classer dans l'ordre. C'est le Tour de France forcément devant la télé à regarder les coureurs. Et moi mon premier souvenir c'était Miguel Indurain qui écrasait le Tour de France, et je me souviens d'un Tour de France où on parlait de Laurent Jalabert face à Indurain. Jalabert qui courait dans une Nuro sur un vélo rose de la ONC. D'ailleurs, j'ai le vélo. J'ai trouvé un vélo collector numéro 33.
Ok.
Voilà, donc ça, c'est un de mes souvenirs.
Avec lequel il a.
Alors, il était dans l'équipe ONC, mais je sais pas s'il lui a roulé dessus. Mais okay. En tout cas, j'en ai un qui a fait le Tour de France en 95.
Ouais. Tu te fais des petits cadeaux comme ça. Ok. Cool.
J'ai aussi la victoire de Marseille en Ligue des Champions en 93. Donc, c'est avant Indurain, du coup.
Ok.
Enfin, avant Indurain, Jalabert.
Pourtant, t'es pas de Marseille, toi ?
Non, mais moi, j'étais en grande section de maternelle et il y avait juste un petit portail qui donnait sur l'école primaire. Et dans l'école primaire, ils en parlaient, ils étaient tous Marseille. Donc, je m'en souviens. Et après, j'ai acheté des cartes Panini aussi. Okay. Et j'ai aussi les Jeux Olympiques de 96, c'est un peu plus tard.
Ouais.
Je me souviens de Marie-Jo Perret qui fait 2 médailles. Galchion qui gagne à la perche, enfin, j'en ai pas mal des souvenirs des JO 96.
Peut-être Diagana aussi, je crois qu'il y a Diagana sur 400 qui fait quelque chose.
Ouais, ça je m'en souviens pas. Je me souviens qu'il a gagné à Séville en 97, 400 ouais, mais je m'en souviens pas aux JO d'Atlanta.
Peut-être une médaille, il gagne pas c'est sûr, mais
Faudrait voir. Je suis pas le meilleur avec les dates, vous êtes trop nombreux. Mais je savais pas que tu collectionnais un peu des vélos. T'en as d'autres comme ça, des vélos collector? Non, c'est celui-là.
Alors j'ai celui-là et j'en ai gardé un autre de mon précédent partenaire qui avait sorti une édition limitée de la 30e année de la dernière victoire de Hino sur le Tour.
Ok.
Donc j'ai un vélo 30e anniversaire. J'en ai que deux des collectors.
Ok. Tu roules avec?
Non, c'est... Non.
Dans le salon?
Non plus. Dans la chambre à vélo où il y a le home trainer.
Ok.
Et tout le bazar.
Bah, je sais que c'est une petite passion quoi, pour avoir rencontré quelques triathlètes. C'est un petit kiff d'avoir certaines pièces qui sont des collections. Et...
Oh, on aime bien les vélos. Dès qu'on a un nouveau vélo, c'est bien. Là, il y a le nouveau vélo de chrono de Van Riesel qui est à la maison. Donc, je suis content. Je vais bientôt pouvoir le rouler en compétition. J'ai hâte.
Ok. Ouais, bah c'est le grand moment matériel quoi, dès qu'on a un nouveau vélo quoi. Donc cool. Et du coup, fan d'Induren, c'était qui les
Non, pas fan d'Induren, mais en gros, c'était pour situer dans le temps, ouais. Non, bah j'étais pour Jalabert, je voulais qu'il forcément en bon français chauvin je voulais qu'un français gagne le cours. Bon, c'est toujours pas arrivé depuis.
Ouais, il y a eu quelques belles échappées de Jalabert. On y a cru qu'il y
avait des jolis podiums aussi. Et ça sent pas bon pour cette année non plus.
Ouais, je suis pas très confiant non plus. Ouais. Mais malgré les belles équipes et malgré les très bons coureurs, c'est vrai que c'est un petit déséquilibre de niveau, de compétence. On va pas rentrer dans le sujet. Mais ok, j'avais pas tout ça. Et je sais que toi, tu viens de la natation. C'est tes parents qui t'ont mis dans...
C'est mon père, ouais, qui m'a...
dans les bassins.
Moi, je voulais faire du judo.
Ok. Pourquoi?
Et je sais pas. Peut-être... à cause ou grâce au JO de 96 où il y a eu quelques médailles aussi. Marie-Claire Restoutou, Douillet, il y a eu des belles deuxièmes places aussi, enfin bref. Et non, mon père m'a inscrit à la natation, puis j'ai appris à aimer ça, à aimer l'entraînement, le processus d'entraînement, j'aime toujours ça. Le fait de préparer un objectif, de construire, de régresser après l'objectif pour reconstruire et aller encore plus haut derrière. Et puis après, tu te fais des copains, j'étais en sport études natation, tout le temps avec les copains, les vacances en stage, les week-ends en compétition. Donc forcément, j'ai aimé ça. Ouais,
ouais, c'est les copains qui
ouais, perdent, ça, ouais, ça a aidé. Ouais.
Ouais. Okay. Quand t'es en sport-études, tu crois une carrière dans le haut niveau en natation?
Non, parce que j'ai vite compris que j'étais pas bon en natation, j'étais pas mauvais, mais j'avais pas de qualité pour nager. Je suis lourd sur l'eau, c'est-à-dire que je coule facilement. C'est encore pire depuis que je fais du triathlon parce que les jambes ont un peu grossi avec les muscles et donc je suis encore plus debout dans l'eau.
Ouais, je vois très bien.
Mais non, j'ai pas de qualité aquatique. Et... Bon, alors j'ai une belle technique de nage parce que j'ai nagé des années en club de natation, donc forcément, t'améliores ta technique, mais non, j'étais pas bon en natation. Et c'est pour ça que là où j'étais, où je me débrouillais le mieux, c'était alors en eau libre déjà parce que il y avait moins besoin de qualité de glisse, mais encore, c'est pas vrai, mais... Enfin, comme j'ai des grandes qualités d'endurance, c'est là où je me débrouillais le mieux, quoi.
Ouais,
j'ai un entraîneur qui disait « T'es une enclume avec des gros poumons.
» C'est une belle image. Ok, et t'as fait un peu d'eau libre, jeune?
Oui, un peu. J'ai fait 2-3 championnats de France en eau libre et 2-3 Coupes de France.
Ah ouais, quand même.
Bon, après, c'était le début de l'eau libre, donc c'était... Il n'y avait pas de système de qualification à l'époque, il suffisait de s'inscrire.
C'était pas encore au jeu?
Non, c'était... Non. Les premiers jeux, c'était... je crois que c'était à Londres. Hein. Je me demande si c'est... Ouais, si c'était à Londres et c'est Oussama Melouli qui gagne. Londres ou Pékin, je sais plus.
Bah, Londres, je m'en souviens, pour l'avoir regardé. Pékin, je m'en souviens pas.
Donc, ouais, si c'est ça. Il gagne à Londres et à Pékin, il a gagné le 1500.
Ok.
Je crois que c'est ça, oui.
Ouais, grand nageur. Très grand nageur. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça a pas lancé... une vague de nageurs, tu vois, marocains. Il est marocain, hein, il me semble. Ou tunisien, je sais plus.
Ouais, j'aurais dit algérien, alors.
on vérifiera.
On vérifiera.
Bon, ouais. Ok, et c'est quoi, toi, les sportifs qui te font rêver, jeunes, justement, qui te donnent un peu, qui te donnent des ailes ou qui jouent un peu ce rôle de... Pas de star, mais tu vois, quand on est gamin, on est quand même... on a toujours envie de ressembler un peu à quelqu'un.
Bah sur mon vélo, j'étais soit Virenque, soit Jalabert. Et après, comme je viens de la natation, bah, y avait Franck Exposito.
Ouais.
En plus, en 2002, il avait fait le record d'Europe dans la piscine de Chalon-sur-Saône, d'où je viens. Donc j'étais dans les gradins. Donc ouais, on va dire si je devais citer un idole de jeunesse en natation, c'est Franck Exposito. Ouais.
Okay. T'étais bon sur les mêmes disciplines que lui ?
Ah, pas du tout. Oh non, je sais pas nager le papillon. Enfin, je sais le nager, mais pas bien. J'ai pas l'ondulation. Enfin, je suis plutôt raide. Je suis fait pour courir, en fait.
Ok. Bah, sur le papillon, dis-moi si je me trompe, mais ouais, faut énormément de souplesse de bassin, énormément de souplesse d'épaule aussi.
Ouais, j'ai pas la souplesse du bassin. Ouais.
Ok. Ouais.
Je suis un peu cambré.
Rétroversion.
C'est pour ça que je cours un peu droit comme un i.
Ouais. Ouais, mais c'est.
Mais ça
c'est...
me sert sur Ironman pour le coup, parce que comme ça, je tiens ma posture.
Tout à fait. Ouais,
ouais, je tiens ma posture tout le marathon. Ouais.
Ouais. Mais du coup, sur le vélo, tu dois avoir un peu mal au dos quand tu pédales trop à la fin.
Non, alors
peut-être au début.
Au vélo, à la fin des 180 bornes, on a un peu mal partout, au dos, au bras, parce que on tient la position aéro et aux jambes. Mais non, ça va. Après, j'ai fait des études pour être bien posé sur le vélo, de façon à sortir le plus de watts dans ma position.
Ok.
Non, ça va.
Ouais, ok. Ouais, je te dis ça parce que moi aussi, j'ai un peu cette même posture quand je cours. Du coup, je cherche un peu des conseils. Et effectivement, peut-être qu'un test postural sur le vélo, ça serait pas mal. À quel moment tu tombes dans la grande marmite du triathlon ?
Alors moi, j'ai commencé le triathlon tard. Alors, j'ai fait un premier triathlon quand j'étais au collège, en 6e, parce qu'il y avait l'Iron Tour qui passait à Chalon-sur-Saône. Et qui dit Iron Tour dit Iron Kid, enfin à l'époque en tout cas. Et l'Iron Kid se faisait dans la piscine de Chalon. Donc, on nous avait supprimé l'entraînement de natation. Tous les nageurs et nageuses du groupe ont participé à l'étape de l'Iron Kid. Donc, c'était mon premier triathlon. Et sinon, je m'y suis remis. Je voulais faire un Ironman. Donc, en août 2010, je m'inscris pour un Ironman en août 2011. Parce que quand tu cours en groupe d'âge, il faut s'y prendre assez tôt. Surtout quand c'est une course en Allemagne. C'était l'Ironman de Regensburg. Et donc, je m'inscris, mais j'ai pas d'entraînement ni en vélo, ni en course à pied. Quoi. Donc, j'y vais, je veux faire un Ironman.
Il y a une raison particulière, un challenge, un copain qui...
Non, j'avais vu un reportage dans Stade 2 sur l'Ironman, je m'étais dit, ouais, ça a l'air bien. Et après, j'ai passé le brevet d'état des activités de la natation à Bordeaux, et dans ma promotion, il y avait la compagne de Benjamin Sanson.
Ok.
Qui faisait Hawaï la même année en pro, qui était sorti devant. Je fais, oh, ça a l'air génial, un jour je ferai un Ironman. Et voilà.
Ok. Et tu doutes pas de tes capacités à pouvoir courir un marathon, faire 180 km de vélo en restant bien ?
Je pensais que ça allait être dur. Après, je me dis qu'avec l'entraînement, il n'y a pas de raison que ça passe pas. J'avais un passé de nageur, un gros passé de nageur. J'ai nagé en bicotidien pendant des années, donc j'ai toujours aimé m'entraîner. Donc je savais qu'entraîner, ça allait passer.
Ok. Ouais, mais bon, faut quand même se mettre à rouler, quoi.
Oui.
Faut quand même faire du volume. Parce que à l'âge, t'as quel âge ? T'as 23, 24.
Alors en 2011, j'ai 20. En août 2011, le
22
jour 23, le jour 23. Le jour de la course. Ouais.
Ok. Tu peux leur raconter cette première course ? Comment ça se passe ?
Alors ça se passe, j'avais arrêté la natation quand je me suis inscrit, donc j'ai repris en septembre 2010, en club, c'était à Angers, là où j'étais pour mes études, et je fais septembre-octobre natation, puis je me dis bon, il va peut-être falloir que je commence le vélo et la course à pied, donc je contacte l'entraîneur d'une triathlète du club de Compiègne, parce que j'étais licencié à Compiègne, mais je faisais mes études à Angers. Okay. Cette triathlète, c'est devenue une amie, ça a été la témoin de mon mariage.
Ok.
Voilà, c'est la marraine de ma petite.
Ok.
Cet entraîneur a été mon entraîneur pendant 12 années jusqu'à il y a un an. C'est Christophe Bastille. Et donc, il m'a entraîné pendant 8 mois. Et puis voilà, on s'est présenté. Enfin, quand je dis on, parce que j'aime bien inclure mon entraîneur dans mes performances. Donc, je dis on s'est présenté, mais c'est moi qui ai fait la course. Mais on s'est présenté à Regensburg 8 mois après. J'ai fait une belle course. J'ai terminé 23e. Et...
Au scratch,
oui. Et j'avais fait le marathon en 3h08. Okay. Donc là, on s'est dit, il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Quoi. Mais il me restait un an d'études après ça. Et donc, cette dernière année d'études, j'avais 6 mois de cours, 6 mois de stage. Je l'ai coupé en deux, j'ai fait mes 6 mois de cours. Et après, je voulais faire 6 mois pour voir consacré qu'au triathlon. Et je voulais gagner en groupe d'âge et l'Ironman de Francfort, qui était support des Champions d'Europe, et l'Ironman d'Hawaï. Sauf que j'ai été blessé. Et donc, j'ai pas pu me qualifier pour Hawaï.
Okay.
Et donc, cette année-là. Pour faire un Ironman, il fallait que je coure très tard en fin de saison. Et donc, mon entraîneur participait à l'Ironman de Floride en pro. Hein, et il m'a dit, viens le faire avec moi. Et moi, je regarde pour m'inscrire. Je fais, mais il n'y a plus de place. Il dit, non, mais inscris-toi en pro. Ça va aller. Donc, ok, je fais une démarche pour m'inscrire en pro. Je dois justifier auprès d'Ironman que oui, j'étais inscrit en amateur pour Francfort, mais que je n'ai pas pu faire Francfort, mais... que j'ai le niveau pour faire l'Ironman de Floride en pro. À l'époque, il y avait quand même pas de critères comme maintenant. Maintenant, j'aurais pas pu le faire, ça. Et donc,
à l'époque, c'était qui voulait pouvait se mettre en pro.
Ça dépendait des fédérations.
Ah oui, s'il fallait.
Et donc
le papier,
en France, ouais, voilà. Et en France, ils étaient assez souples, on va dire. Et donc, j'ai réussi à m'inscrire en pro et j'ai fait 5e de la course avec un chrono de 8h16 qui, à l'époque, était la deuxième performance française. Alors maintenant, 8h16, ça tombe tous les week-ends, quoi. Et j'avais fait un marathon en 2h57. Moi, j'étais refait, quoi. J'avais fait moins de 3 heures sur marathon sur Iron, c'était énorme.
Ok. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ?
Je me dis, je vais pas faire mon 6 mois de stage, c'est bon, j'ai...
On voit le garçon mauvais à l'école, tu vois.
Non, je l'ai fait, j'ai validé mon master quand même. Donc
Ah, bien joué. J'ai pas le droit de te gronder.
Donc j'ai terminé mes études et bon, alors, c'est sûr que ces 6 mois-là, ça a été dur dans le sens où j'avais pas vraiment envie de faire un stage de génie civil, quoi. Je pensais qu'à faire du triathlon, mais ouais, plus de 10 ans après, j'ai bien fait, j'ai validé mon diplôme. Mais ça a été 6 mois durs parce que je m'entraînais. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour les groupes d'âge qui s'entraînent et qui ont un métier à côté. Moi, j'ai fait ça 6 mois et ça a été dur, quoi. Je ne voyais pas le jour. Je me levais le matin, j'allais nager à Compiègne parce que j'ai fait mes 6 mois de stage à Beauvais. Donc, je me levais le matin, j'allais nager à Compiègne à 6h. De 6h à 7h30, je nageais. Ensuite, je faisais la route jusqu'à Beauvais. Donc, en fonction du monde, il y en avait pour 35-45 minutes. Je mangeais dans la voiture, je prenais mon petit-déj. Donc, je faisais ma journée... de boulot, quoi. Le midi, de temps en temps, je plaçais un entraînement. Le soir, re-entraînement, et ça pendant 6 mois. Et donc, j'ai fait une compète.
T'as plus de vie. Ouais. T'es lessivé en plus.
Ouais, c'est ça.
Dur de s'entraîner le soir après avoir. Tu sais, tu t'es levé tôt le matin. T'as passé une heure et demie dans la bagnole. T'as fait ta journée de boulot. C'est dur de remettre les baskets, je trouve.
Et puis, ouais, ou faire le vélo. Et en plus, ce stage, je l'ai fait de décembre jusqu'à fin mai. Donc le soir, il faisait nuit, donc c'était home trainer ou muscu, enfin, je voyais pas beaucoup la lumière du jour, quoi. Et donc ouais, c'est une expérience et ouais, parce que je dis beaucoup de respect pour ceux qui font ça des années.
Ouais, il y en a beaucoup sur le circuit pro ou très haut niveau. Toi qui connais depuis 10 ans, tu vois.
Non, enfin, il y a des pros qui ont ce rythme de vie. À un moment, si t'es vraiment bon, t'arrives à te dégager du temps pour t'entraîner. T'arrives à trouver, tu te dis allez. J'essaye, t'arrives à te dégager du temps. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que disait Christophe, mon ancien entraîneur. Tu n'es pas bon parce que t'as du temps pour t'entraîner, t'as du temps pour t'entraîner parce que t'es bon. Sous-entendu, c'est pas parce que t'as des dispos que tu deviens bon, quoi. Parce que souvent, on dit, ah mais toi t'es bon, mais tu fais que ça. Non, je fais que ça justement parce que j'ai pu à un moment me dire, ah je vais essayer de faire que ça.
Ouais, c'est un choix et un engagement nécessaire.
C'est
en fait,
ça, ouais.
Pour réussir.
Alors il y en a qui ont essayé... ils ont pas réussi, quoi. Parce qu'ils avaient pas le petit truc qui permettait d'être très bon.
Ouais. Mais en tout cas, c'est un point commun que tous les meilleurs ont, c'est que...
Je sais pas, parce que moi, je suis arrivé tard au triathlon, donc forcément, j'ai dû avoir ce passage. Mais après, il y a des triathlètes qui ont commencé, qui ont été très fort jeunes, qui ont fait du court distance et qui, après, passent sur longue distance. Eux, ils ont pas eu le passage où à un moment, tu t'entraînes en parallèle d'une autre activité, quoi.
Ouais. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si tu veux atteindre l'excellence dans une discipline, quelle qu'elle soit, il faut le faire 100% de ton temps.
Ça dépend du sport aussi, je pense.
Ouais, bien sûr, mais tu t'entraîneras jamais mieux au basket qu'en jouant au basket, tu vois.
Bah, c'est sûr, oui. Oui.
Donc, alors certes, effectivement, tu vois, il y a des études qui montrent que l'entraînement croisé est hyper valorisé pour l'athlète, que les athlètes ont intérêt à avoir des passions à côté, tu vois, pour changer les idées, pour faire autre chose. Mais il y a, dans le sens où je dis ça, c'est dans l'engagement psychologique, tu vois. Mon activité principale, c'est être triathlète. Et à côté, c'est du petit complément, c'est pour me changer les idées, c'est pour me faire une petite source de revenus, tu vois. Mais le statut, il change, en fait. L'état d'esprit change, l'engagement change.
Ouais, je pense, ouais.
C'est ça qui fait la diff.
Après, il y en a qui font toute une carrière en courant dans les rangs professionnels en ayant, en n'étant pas d'abord triathlète, mais en ayant d'abord leur activité.
Ouais, c'est clair. Toi, tu te lances à fond, du coup, après ce stage ?
C'est ça, je me dis, j'essaye. Rien à perdre, j'ai mon diplôme. Au pire, je me mets dans le marché sur le marché du travail dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans. J'ai pas envie de me dire 20 ans plus tard, j'aurais dû essayer. Et maintenant qu'on est là, je me dis que j'ai bien fait.
Bah, clairement, la chance sourit aux audacieux, hein, comme on dit. C'est la galère au début ?
Alors, c'est la galère. Je vivais chez les parents de. Bon, c'était pas encore ma femme, mais on vivait chez ses parents. J'avais pas les sous pour payer mes premiers billets d'avion, donc c'est ma femme et mon père qui m'ont payé mes premiers billets d'avion. Alors après, c'était pas une galère, c'était... Non, c'était aussi... C'était une belle époque, mais c'était différent. C'est différent, j'avais beaucoup moins de frais dans le sens où je payais pas de loyer, enfin... Mais c'était... C'était pas viable à long terme, quoi. Après, forcément, quand t'as pas un grand passé dans le triathlon et que tu te lances et que t'as eu un ou deux résultats... Il y en a beaucoup des athlètes qui ont un, deux ou trois résultats et qui après, on les voit plus, ouais, qui décrochent. Ouais, il a fallu faire que je fasse mes preuves, mais après, bah, je les ai faites et bah, c'était comme ça. Mais non, c'était pas la galère.
Ouais. Non, je te posais la question parce que tu vois, on parlait un peu prize money avec Manon. Tu vois, les prize money à eux seuls, hormis peut-être certaines courses où il y a des gros prize money, la majorité, tu vois, ça te permet pas, même si tu gagnes 4 courses à l'année, ça te permet pas d'en vivre sereinement avec les voyages, avec le matériel. Tu vois, on se disait en rigolant, un vélo, c'est une voiture maintenant. Donc, ça te demande en plus, tu vois, d'aller chercher des sponsors, ça te demande en plus, tu vois, de faire un effort qui est quand même pas négligeable, tu vois, en termes d'engagement. Donc, au début, j'imagine que quand t'es personne, que t'as. 2 ans d'expérience dans le triathlon, les sponsors ils peuvent te regarder et te dire écoute mon coco, fais encore tes preuves pendant 1 an ou 2 et puis on en reparle quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça. Alors après, comme j'ai dit, moi j'avais pas de frais de loyer, mes prize money ils me suffisaient dans le sens où bah, c'était quand je prenais un prize money, ça me permettait d'aller jusqu'à la course d'après et ainsi de suite. Ouais. Bah, c'était pas viable, mais au début ça l'a fait quoi.
Ouais. Et t'as pas eu ce moment qu'aurait pu être la peur de. Tiens, si je gagne pas cette course, je vais être dans le rouge financièrement.
Non, parce que j'avais toujours dans un coin de ma tête le fait de pouvoir aller sur le marché du travail. Et toujours maintenant, si j'ai des diplômes qui me permettent de travailler dès la semaine prochaine si j'ai besoin de travailler. Donc, et en plus, comme j'ai mon brevet d'état des activités de natation, il y a beaucoup de CDD, je peux très bien travailler 3 mois. Ouais. Et puis, bah alors, maintenant, maintenant je suis serein, mais avant j'aurais très bien pu faire une saison de 3 mois et puis repartir pour 4 mois à 100%. Donc non, moi j'avais pas cette pression et j'ai jamais couru après le prize money. Je suis pas quelqu'un qui... J'ai jamais trop couru. En fait, quand je cours, c'est que je pense être prêt pour faire une bonne place, quoi.
Ok. Mais c'est marrant parce que de ce que j'avais un peu vu de toi, tu vois, de ce qu'on peut voir sur les réseaux, des interviews et tout, c'est à quel point t'es serein. T'anticipes pas des faux problèmes, j'ai l'impression, dans ta personnalité. En tout cas, c'est comme ça que je te vois. Mais... Et ça confirme, tu vois, tu te dis, t'avais l'air d'un peu de vivre au jour le jour, pas au jour le jour, tu vois, mais à 2-3 mois, et puis tant que le problème n'arrive pas, pourquoi se le poser, quoi. Tu tentes l'histoire à fond, tu te mets à gagner des courses, pas tout de suite, bien sûr. C'est quoi l'objectif, tu vois, c'est quoi l'histoire que t'avais envie d'écrire à l'époque? Qu'est-ce qui te faisait rêver? Qu'est-ce qui t'animait?
Alors, je partais pas dans l'optique d'écrire une histoire ou... Non, ce que je voulais, c'était donner le meilleur de moi-même sur chaque compète, voir jusqu'où je pouvais aller, faire des beaux chronos, des belles places, dans un premier temps participer à Hawaii en pro. Voilà, c'était ça qui m'animait, mais c'était, c'était la performance, la construction de la performance dans son ensemble, pas le jour J, la course en elle-même, la construction, la préparation... La régression après la course, pour reprogresser, la phase hivernale où tu coupes et après tu repars pas de zéro, mais tu repars loin du niveau que tu avais forcément sur la dernière course. La reconstruction, ça j'aime bien. J'ai pas besoin de courir beaucoup, pour moi c'est pas la carotte la course. J'ai envie de dire que même si l'année du Covid où on n'a pas beaucoup couru, moi ça m'a posé aucun problème parce qu'il y avait toujours l'entraînement. Et c'est ouais, j'aime m'entraîner, j'ai toujours aimé m'entraîner même quand j'étais gamin.
Pourquoi? Tu saurais dire pourquoi?
Non, non, bah c'est un plaisir comme ça. Enfin, je sais pas.
Mais c'est Kobe Bryant qui dit cette phrase. Le vrai bonheur. C'est pour moi, c'était pas les titres, les trophées NBA. Le vrai bonheur, c'était de me lever à 5h du matin, et de mettre mes baskets et d'être le seul sur le parquet. Et il dit, je sais pas si t'as vu cette interview, je pourrais te l'envoyer, mais c'est hyper intéressant. Il dit, je kiffe, j'adorais autant parce que c'était le truc le plus choisi. Les autres se levaient à 9h, moi je me levais à 5, mais je le choisissais en fait. Et c'était la plus grosse des libertés qu'il avait, quoi. Et je trouve ça cool. Peut-être ça t'intéresse. Mais du coup, toi t'as ça aussi, quoi. La passion de l'entraînement. Tu pourrais passer des heures devant tes plans d'entraînement à les fignoler, à les réajuster, à les...
Non.
Non,
non, non, j'ai besoin d'avoir un entraîneur. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, qui me dit là c'est bien, là c'est pas bien. Et je pense que si moi je gérais mon entraînement, je passerais justement trop de temps à me dire faut que je fasse. Enfin, je cogiterais trop, je voudrais trop que ce soit parfait. En fait, je perdrais beaucoup trop d'influx. Voilà. Et puis, quand t'es un entraîneur, si t'es pas bon, tu peux dire t'es nul toi. Tu peux, c'est pas de ma faute, c'est l'entraîneur. Je plaisante. Hein.
Bien sûr. Mais surtout que tu as travaillé pendant longtemps avec des personnes de confiance, donc tu t'es entouré très vite dans ton staff.
Alors mon staff, alors c'est plus le même, mais c'est mon entraîneur. Et à côté de ça, j'ai un cuisinier, un mécano, un chauffeur, et en fait tout ça c'est ma femme, quoi. Elle m'aide beaucoup et on a grandi ensemble et on s'est connus, on était gamins, enfin on avait 16 et 17 ans. Bah, elle m'a accompagné dans le triathlon et il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans le triathlon qui quand ils se mettent à fond dedans, ils se séparent. Bah, nous non, elle s'est mise dedans. Alors c'est moi qui cours, mais elle a autant d'impact sur la performance que moi en fait. Et ouais, j'ai de la chance qu'elle ait été là pour, et qu'elle soit toujours là forcément pour m'accompagner. Ouais.
Ouais. Merci à toi de la mentionner parce que c'est, tu sais, c'est un sujet, je vais pas dire tabou dans le triathlon, notamment sur la longue distance. Enfin, tu vois, il y a trois sports, faut s'entraîner trois fois. Et c'est difficilement compatible, tu vois, des fois avec une vie de couple, avec une vie de famille. Et les voyages, c'est loin. À chaque fois, tu te prends trois jours parce que tu as envie d'être là un jour avant. Même deux jours, pour histoire d'être vraiment serein.
Ça dépend de la course, parce que moi, quand je cours aux US, j'aime bien être là-bas trois semaines avant.
Donc voilà, tu confirmes ce que je dis. Ouais. Donc si tu viens avec ton mécano, donc ta cuisinier, elle vient aussi. Et tu vois, et j'avais lu, je sais plus si c'était des conneries ou si c'était vraiment sérieux, mais j'avais lu que c'était un sport où il y avait beaucoup de séparation, parce que c'est difficile de conjuguer les deux, quoi. Et moi, je trouve ça trop beau, tu vois, ces équipes, ce couple équipe qui pourrait pas marcher, en fait, s'il y a pas cette cohésion, quoi. Et donc, c'est cool. Félicitations à vous deux, quoi. Et félicitations à elle aussi.
Ça vaut tous les bouquets de fleurs, ça. Hein.
C'est vrai. Elle est fleur.
Non, pas trop. Mais j'en offre souvent. Enfin, à chaque fois que je fais un podium. Alors, on va me prendre pour un gros macho.
Non, mais c'est... Mais au contraire, tu vois, je pense que ce que tu dis, c'est une grande marque de reconnaissance, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de mal, tu vois, à offrir des fleurs. Enfin, je veux dire, si elle aime les fleurs, elle aime les fleurs, quoi. Tu veux dire, un problème. Certaines femmes aiment les fleurs, d'autres pas. Et certains hommes aiment les fleurs, d'ailleurs, aussi. Et il n'y a pas de jugement là-dessus, quoi. Mais ok, très cool. Qu'est-ce qu'elle fait pour toi, en plus? Elle fait tout, hormis la partie entraînement?
Mon entraîneur Cyril Vino fait la planif, il gère le contenu des séances natation, vélo, course à pied, et elle gère le contenu des séances muscu.
Ok, elle est préparatrice physique ou coach?
Ouais, elle a les diplômes.
Ok, d'accord.
Elle gère aussi l'alimentation, enfin...
Ok, elle a d'autres clients que toi ou...
Non, je garde l'exclusivité pour l'instant.
Ok, il y a du manager, quoi, manager full time. Non mais trop bien, enfin tu vois, moi je rêve de ce genre d'histoire aussi, et il y a pas de mal à ça, tu vois, au contraire. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de champions olympiques, leurs mecs ils font tout aussi. Hein.
Ouais, on est beaucoup comme ça dans, bon, alors moi je vois dans le monde du triathlon, dans la longue distance, on est beaucoup à... Bah, on parlait de Manon tout à l'heure.
Ah ouais, pareil, son mec, c'est pareil.
Ouais, son chéri, ouais, il s'occupe de beaucoup de choses. C'est son entraîneur en plus. Mais il y en a d'autres. Hein, et que ce soit un homme ou une femme qui court, le conjoint, pareil. Mais je pense que sinon, on est quand même un sport assez. Enfin, un sport de niche. Donc, à part vraiment ceux qui gagnent des grosses courses souvent, qui peuvent se permettre d'avoir vraiment un vrai staff. Alors, je dis pas que j'ai un faux staff, mais. Enfin, nous, on est des artisans avec ma femme, je trouve. On n'est pas une multinationale. Ouais, on est quand même un sport où on est beaucoup d'artisans, quoi.
Ouais. Et souvent, c'est des couples.
Ouais.
Très souvent, c'est des couples, qu'on se le dise. Donc, clairement, non, mais c'est beau de le dire. Et je pense que ça fait partie aussi de la beauté de ce sport, je trouve. Je voulais te poser la question. Je pense que la réponse, elle n'a pas trop changé. Mais peut-être pour donner un petit peu de contexte aux auditeurs qui te connaissent un peu moins, tu as gagné deux fois l'Ironman d'Hambourg, 2022-2023.
Alors non, j'ai gagné deux fois le championnat d'Europe Ironman. Okay. En 2023, c'était à Hambourg. Et en 2022, c'était à Francfort.
Pardon, excuse-moi.
Oui, pas de problème.
Excuse-moi.
Mais c'est nouveau. Avant, c'était tout le temps à Francfort. Mais maintenant, c'est une année sur deux. Parce que quand les hommes sont à Francfort, les femmes sont à Hambourg et vice-versa.
Eh ben, merci de préciser, parce que justement, tu vois, en bossant l'interview ce week-end, j'étais là, mais il y a un truc qui va pas, et j'ai cru que c'était deux fois Hambourg. Excuse-moi. Donc c'est les championnats d'Europe, tu les as gagnés deux fois, ce qui a été... alors moi, effectivement, comme je le disais au début, je te connais depuis 2017, donc je te suis depuis un petit moment. Et là, je me dis, putain, trop cool, Denis, là, il est en train d'exploser, des résultats qui sont plus les mêmes, une exposition qui est plus la même, et je suis content, tu vois, t'es toujours content quand t'as rencontré quelqu'un dans la vraie vie, t'es toujours content pour lui. Et te dire, c'est chouette. Et je voulais te demander, qu'est-ce qui a changé, tu vois.
Bon, en fait, y a rien qui a changé. Alors, c'est pas depuis 2022 que je commence à avoir des beaux résultats. J'ai gagné mon premier Ironman en 2014, donc, et le deuxième en 2021. Il y a eu 7 ans entre les deux. J'ai eu énormément de podiums ou top 5 entre les deux. J'ai terminé 24 Ironman. Je suis 17 fois dans le top 5, donc je suis souvent placé. Ouais. Alors, c'est sûr que j'ai pas eu des gros résultats marquants comme les trois dernières saisons où j'ai gagné Klagenfurt en Autriche, Francfort, Hambourg. Mais j'ai toujours été là, je continue de progresser tranquillement tous les ans et j'essaye de trouver des nouvelles choses pour progresser. Donc en 2020, j'ai travaillé avec un préparateur mental, ça m'a fait gagner en confiance avant et pendant la course. J'ai appris à gérer les moments faibles, on va dire, dans la tête, mais aussi les moments forts parce que faut arriver à lisser les émotions. Alors j'ai changé d'entraîneur après 12 ans avec Christophe, je suis avec Cyril. Donc quand tu changes d'entraîneur, tu changes de méthode. Donc quand il t'a entraîné 12 ans avec le même entraîneur et que tu changes, ça choque le corps et ça te permet de progresser sur certains points où tu avais besoin de progresser. Moi j'arrivais, et je pense on a encore du boulot avec Cyril, mais j'arrivais pas à sortir des gros swats pendant un long moment en course et c'est ce qui m'a fait perdre quelques fois les groupes à vélo que je ne perds plus maintenant ou un peu plus tard comme à Hambourg. Et ouais, j'essaye de mettre plein de choses en place. Le dire comme ça à froid, c'est... donc j'ai travaillé avec un préparateur mental, je fais du travail de respiration.
Tu pourrais dire ce que tu as fait un peu justement en préparation mentale, parce que j'en parle avec beaucoup, beaucoup d'athlètes. Moi, j'ai passé plusieurs diplômes de préparation mentale, donc je connais bien. Je coache pas des athlètes parce que j'estime que je suis pas là dans ma zone de génie, tu vois. Par contre, je connais très bien les problématiques. Je serais beaucoup plus capable d'écrire un bouquin sur la théorie que de mettre dans la pratique avec les athlètes. Tu saurais peut-être un tout petit peu plus détailler le travail que tu as fait et comment est-ce que tu l'as mis en place, parce que moi j'entends encore quand même beaucoup dire sur la discipline d'endurance, non mais dans l'endurance, soit t'es une machine, soit tu l'es pas, c'est plus mécanique qu'autre chose. Il n'y a pas de duel, il n'y a pas un affrontement direct, ou il n'y a pas besoin de gérer un gros stress, peut-être, mais...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
T'es face à des zones de doute hyper fort, quoi.
Avant un Ironman, c'est quand même pas anodin. Je connais pas grand monde qui dit qu'il y a pas un stress avant un Ironman. Même si c'est une course de longue distance, on est quand même confronté aux autres. Il y a des duels puis des duels envers soi-même aussi, parce que t'as le temps de penser. Alors après, je pense pas être le mieux placé pour parler de ce que j'ai fait de la prépa mentale. Et ce qui va pour un athlète ne va pas forcément pour un autre. C'est pour ça que je me sens pas à l'aise d'en parler, parce que on a fait de la projection, du travail de respi, mais c'est que des techniques parmi d'autres et je les connais pas toutes en fait. Et je les connais pas parce que pour moi, mon préparateur mental, il estimait que la bonne c'était celle-ci et on n'a pas développé les autres, quoi.
Ok. Et le symptôme que vous vouliez gérer, c'était perte d'énergie à cause du stress avant une course? Les moments de down où tu peux avoir des pensées un peu négatives.
C'est ça. C'est... Alors, pas la perte d'énergie à cause du stress, mais c'était gérer le stress d'avant la course ou pendant la course. Ou je perdais vite... Quand je sautais à vélo des groupes, je me sous-estimais derrière. Alors, j'ai appris à pas le faire, mais à switcher plus rapidement, quoi. À revenir dans le bon état d'esprit plus rapidement. Parce qu'il y a forcément, sur Ironman... des moments où t'es pas bien mentalement et où t'es très fort mentalement, c'est tellement long comme course que... En plus, en fin de course, bah, t'es fatigué et quand t'es fatigué et que t'as faim, bah, c'est comme tout le monde, tes émotions elles sont plus marquées, quoi.
Ouais.
Donc ouais. J'ai appris à gérer ça, ouais.
Ok. Mais hyper intéressant en tout cas d'avoir ton retour. Je sais que j'en avais beaucoup parlé avec Léo. Et lui, il a énormément bossé, notamment l'année dernière, tu vois, l'année de son titre. Il a énormément bossé le jour avant la course, tous les protocoles, les trucs, parce que il a une personnalité où pas forcément distraite, où il avait du mal à se mettre dedans, en fait. Son esprit était sur la course, au lieu d'être sur le protocole. Et du coup, tu vois, ça lui coûtait un peu d'énergie, des oublis, des sources de stress, tu vois. Et il avait partagé ça, c'était hyper, hyper intéressant. Et c'est vrai que dans le triathlon, on oublie un peu que la veille de la course, il se passe quand même beaucoup de choses. Tu peux y perdre de l'énergie quand même, quoi. Ça peut te faire dégoupiller. Mais tu sais si vous êtes nombreux parmi les triathlètes en longue distance à faire de la préparation mentale maintenant ?
Je peux pas dire, j'en ai aucune idée. Je sais que je suis pas le seul. Manon, je sais qu'elle en fait, ou elle en a fait en tout cas. Après, je saurais pas dire. Mais ça a quand même tendance, et pas qu'en triathlon, à se généraliser.
Bah, tu vois, même quand des gens comme toi te disent « Ouais, j'ai bien progressé, j'ai débloqué un truc », tu te dis « Ok, c'est que ça marche, quoi, tu vois.
Ouais. »
Après,
tout le monde n'a pas forcément besoin de débloquer. En tout cas, moi, j'en avais besoin et ça m'a servi, quoi.
Ouais, ouais. C'est une question que je me pose, tu vois. Est-ce que tout le monde devrait faire de la préparation mentale ou pas ? Je suis partagé, quand même. Sûrement, il y avait des champions, tu vois, à l'époque où il y avait, la préparation mentale n'existait pas, il y avait des champions, et personne n'en faisait, donc ça n'empêchait pas la performance, mais est-ce qu'ils n'auraient pas été encore plus performants avec de la préparation mentale ? Je sais pas, mais ou ils auraient d'autres champions. Mais hyper intéressant. Il y a une question que j'aime bien poser, tu vois, à mes invités, c'est est-ce qu'il y a un conseil ou une routine que tu as mis en place récemment, ou peut-être ces 2-3 dernières années, justement, tu cites 2021, ton deuxième Ironman, et puis derrière un très bel enchaînement. Est-ce qu'il y a un conseil, justement, que tu as appris ces dernières années, et que tu aurais bien aimé mettre en place avant, ou que tu aurais bien aimé savoir avant ? Tu te dis, ce truc-là, dommage si j'avais su, ou si j'avais essayé avant, peut-être que ça aurait été un peu différent.
Alors, c'est plus par rapport à l'aérodynamisme. Okay. En vélo, on a, entre maintenant et il y a 10 ans, tous les athlètes professionnels et même quelques amateurs, enfin beaucoup d'amateurs même, on cherche à être le plus aérodynamique possible, à mettre le bon matériel au bon endroit. Quand je dis matériel, c'est le bidon où je le mets pour moi, pour ma position, quelle tenue. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'y prêtais pas trop attention parce que c'était pas dans les mœurs. Je me dis, ah, si sur cette course, j'avais été posé correctement, je l'aurais gagné celle-là aussi. Enfin...
ok.
C'est plus ça, ouais.
Ok. Ça a beaucoup évolué ces 10 dernières années, le niveau de performance sur la posture en vélo.
Ouais, c'est pour ça que les temps vélo, ils tombent aussi comme ça. Même moi, à Wattegal, je suis allé 15-20 minutes plus rapide qu'il y a 10 ans sur des parcours à dénivelé similaire. Ouais. Juste avec l'aéro, la position et les tenues.
Et ça te fait gagner en termes de vitesse, ça te fait gagner quoi ?
Ça dépend du parcours, mais...
Et sur un plat, sans vent, tu vois...
C'est dur à quantifier, parce que ça dépend d'où tu pars aussi. D'où tu pars et jusqu'où tu vas, et...
Ouais, parce que les watts que tu dépenses pas au début, bah, tu les fais durer plus longtemps, quoi, tout simplement.
Non, parce que c'est pas que tu les fais durer plus longtemps, parce que les watts, tu les sors pareil. C'est juste qu'il y a moins de déperdition de watts, en fait. On dit on sauve des watts, ou je gagne des watts, mais en fait, c'est juste qu'elles sont pas dissipées, elles sont moins dissipées, elles sont moins perdues, quoi.
Ok. Et toi, qu'est-ce qui a changé ? C'est que t'es allé voir justement des professionnels de la posture.
C'est ça, ouais. Je me suis fait poser sur mon vélo et j'ai fait des tests. J'ai testé énormément de matériel et de tenues pour voir ce qui était le mieux pour moi et ma position. Et dès que tu changes un peu une position, il faut presque t'élimines certains matériels parce qu'ils sont vraiment loin. Mais après, quand tu changes un peu ta position, t'es presque obligé de tout retester parce que l'air il s'écoule plus pareil.
Et maintenant, on arrive à faire des tests avec l'air où on peut simuler l'allure de l'air sur toi un peu.
Ouais, alors moi j'avais fait ça avec Van Driesel en soufflerie. On m'avait cousu une trifonction en mettant des petits fils rouges. Je ressemblais à un poulet.
Ok.
Donc on peut faire ça.
J'ai retrouvé les photos.
Je les ai mises en plus.
Ok.
Tu vas les retrouver. Ouais, après les tests, on peut aussi les faire sur la piste ou sur des lignes droites de 1 km. Il y a des protocoles qui sont mis en place, il y a des applications AeroTune par exemple qui permettent de se tester tout seul. Sinon, il y a la soufflerie tout simplement. Ouais. Mais la soufflerie, ça coûte plus cher. Alors que quand on fait ça sur son tronçon d'un kilomètre, bah, en gros, ça coûte ton temps d'athlète à toi et de la personne qui est avec toi. Plus le matériel que tu veux tester si t'as dû l'acheter, quoi. Mais ça, c'est aussi pareil en soufflerie. De toute façon, tout ce que tu testes, soit il faut te le faire prêter, soit il faut l'acheter, quoi.
Ouais, quoi qu'il arrive. Donc,
ouais.
C'est que ça commence un peu à chiffrer si t'es amateur et que t'as envie de faire des tests.
Ouais, alors maintenant, il faut savoir qu'en soufflerie, ils ont quand même tout un panel de casques ou de tenues... Justement pour pas que les gens aient acheté à chaque fois des casques, quoi. Bah, je dis des casques, mais ça peut être autre chose, hein.
Bien sûr. Ça a été quoi le plus gros game changer, d'ailleurs, pour toi? C'était plutôt le casque, c'est plutôt l'inclinaison sur les prolongateurs. C'est un tout, j'imagine, mais...
Ouais, c'est un tout, mais ce qui a beaucoup joué sur moi, c'est ma position. Je roulais sur des vélos trop petits, un peu à l'ancienne, où tu pensais que pour être aéro, il fallait...
Très arrondi, ouais.
Ouais. Ou très bas par rapport à ton vélo.
Ouais, je vois très bien.
Au début, moi, je pouvais toucher ma roue quand j'étais en position aéro.
Et vite.
Alors que maintenant... Et après, ce qui est valable pour quelqu'un n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre.
Ok. Et est-ce que tu vas changer justement ta stratégie de posture en fonction du parcours? J'imagine, tu vois, par exemple, sur Nice, alors pour les non-experts, Nice, c'est quand même, il y a pas mal de dénivelé pour une course en Europe, en tout cas. C'est une des courses en Europe sur lesquelles il y a le plus de dénivelé. Quasiment 2000, je crois. Ouais, 2500, ouais.
Pour le parcours de l'Ironman.
Ouais, pour le parcours
de... Pardon, de l'Ironman championnat du monde, qui est légèrement différent du parcours de l'Ironman.
Ouais, ouais. Effectivement, ouais, tu fais bien de préciser. J'entends certains ultra-trailers qui diraient, disons, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. En tout cas, pour du vélo, c'est beaucoup. C'est
surtout
pas mal.
Pour moi qui fais 76 kilos affûté, c'est trop.
Donc, on sait pourquoi on ne va pas souvent là-bas. Est-ce que, du coup, tu pourrais avoir tendance à changer ta stratégie, justement, de matériel, d'équipement, de posture sur ce type de course?
C'est une très bonne question et il faudrait le faire dans le sens, ce serait mieux que je sois un peu plus en arrière par rapport à mon boîtier de pédalier pour les descentes, parce que quand tu es vraiment avancé par rapport à ton boîtier de pédalier dans les descentes, tu vires moins bien, mais ça implique aussi de... Bah, les changements, ça change... la façon dont tes muscles fonctionnent, même si la position est très sensiblement la même, bah c'est quand même pas les mêmes angles quand tu pédales et tout, et donc ça impacterait trop l'entraînement de changer pour une course, quoi. Parce qu'après, moi, je vais refaire des parcours plats, donc je changerai pas. Mais ça, oui, ça peut. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sur certaines étapes de contre-la-montre sur les grands tours, tu vois les coureurs commencer avec un vélo de contre-la-montre, et dès que ça monte, bah tu les vois perdre du temps entre guillemets pour changer de vélo, mais avoir la bonne position derrière pour sortir les meilleurs watts, quoi.
Ouais, c'est vrai, tu fais bien de le préciser. Ouais, les cyclistes pro, eux peuvent le faire parce que justement, ils ont tout l'équipement qui est pré-réglé avant et ça aide beaucoup, quoi. Tu vois, quelqu'un qui vient de filer le vélo, c'est assez dingue d'ailleurs cette pratique, je trouve. Changer de vélo directement pendant le circuit, mais si c'est autorisé, que tout le monde.
Oui, oui, puis s'ils le font, c'est que c'est tout calculé avant et c'est que c'est la façon d'être le plus rapide possible, quoi.
Ouais. Bah justement, tu vois, je voulais te parler un petit peu de stratégie de course, mais peut-être plutôt par rapport à tes opposants. Tu vois, ça reste un sport quand même de niche, où vous connaissez assez facilement les perfs des autres quand même. Donc tu sais sur une start list qu'il y a, tu sais qui est bon, qui est moins bon. Alors il y a peut-être des nouveaux petits jeunes, il y a peut-être des coups d'éclat, des surprises. Bien sûr, ça reste du sport. Mais on va dire qu'à 80%, tu connais quand même bien ce qui va se passer. Est-ce que tu peux faire une stratégie de course? Et si oui, comment est-ce que tu fais une stratégie de course en fonction de certains adversaires?
Alors déjà, quand tu vois les start lists, comme tu dis, tu connais tel et tel athlète, donc tu peux imaginer différentes stratégies de course en fonction de ce qui peut se passer. Il n'y a pas une stratégie, enfin il y en a plusieurs qui peuvent arriver. Moi, dans mon cas, je sors souvent devant dans le groupe de tête en natation. Et ma stratégie de course, c'est de rester, on va dire, le plus longtemps dans le groupe possible à vélo, parce que tu bénéficies de l'effet de groupe, même si tu es à la distance réglementaire. Et après, en course à pied, moi, je ne m'adapte pas aux autres. Je fais ma course à pied. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour courir vite. Et moi, bon, je pense que ça a fait ses preuves. Et donc, je ne m'occupe pas des autres, quoi, en course à pied. C'est plus à vélo où j'essaye de m'adapter aux autres. Ça m'est pas arrivé souvent de pas m'adapter aux autres, dans le sens où j'étais moi devant à faire mal aux autres à vélo. Ça m'est arrivé, mais pas souvent.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Et du coup, des fois, tu peux te dire, ouais, tiens, il y a tel adversaire, lui, je sais qu'il va être très bon à vélo, du coup, je vais essayer de l'accrocher à ce moment-là.
Ouais, ça arrive aussi que je me dise, lui, il est très bon à vélo, je vais pas réussir à m'accrocher. Par exemple, sur l'Ironman d'Hambourg, il y a 10 jours, je savais que Christian Ogonog, il allait s'échapper à vélo. Alors, est-ce qu'il allait s'échapper seul, combien il allait mettre, ça, je savais pas. Mais ouais, je savais qu'il allait s'échapper. Ouais. Ouais.
Et il termine le vélo en premier.
Il pose le vélo au premier avec 3 minutes 30 d'avance sur moi et 2 minutes 10 sur le groupe entre lui et moi.
Ok. Et derrière, qu'est-ce qui se passe?
Derrière, il fait 3 et moi, je gagne.
Du coup, quand t'arrives sur le... Tu vois que t'arrives, t'as 3 minutes 30 de retard. Effectivement, psychologiquement, il faut le gérer quand même. Mais tu sais que t'es capable de lui mettre 3 minutes 30 sur le marathon?
Moi, quand je sais que j'ai 3 minutes 30 de retard sur Christian Noguenaud, je suis content parce que je sais que je cours plus vite que lui.
T'as fait un bon vélo, ouais.
Ouais, et puis je sais que... Alors, sauf si moi, je coince et que lui, il sort un marathon de dingue à son niveau, je sais que si tout se passe bien, je vais le reprendre, quoi. Donc... Non, je suis content à T2 quand on m'annonce 3 minutes 30 sur Huguenot et une 20 sur le groupe entre lui et moi. Ouais.
Ouais. Ouais, parce que du coup, tu peux recoller le groupe dans un premier temps, refaire un peu et repartir avec
quelqu'un. Non, parce que même pas. Vu qu'en course à pied, je fais en fonction de moi, je me dis pas, je reviens sur le groupe, je me repose. En fait, je pars à mon allure et je sais que je vais.
Tu suis.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Ok, hyper intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand tu le passes?
Quand j'ai passé Christian, lui, il avait déjà perdu 2 places, il était 3e. Donc bon, il se passe rien. Hein. On est encore en course. Je suis 3e. Non, il se passe rien. Je continue ce que je suis en train de faire. J'essaye d'être relax. On en parlait tout à l'heure, de tenir ma posture, de m'hydrater, de me ravitailler. Quand je le passe, il reste 20 bornes, 19. Ouais, donc la course est encore longue, quoi.
Ouais. Faut rester concentré. Quoi.
Ouais.
Bien sûr. Ça t'aide en tout cas d'avoir des concurrents tu vois, qui sont aussi performants, là où toi tu peux être un peu plus sur tes axes de progression, tout simplement.
Oui, de toute façon, dès qu'il y a des bons athlètes, ça attire le niveau vers le haut. Et bah, moi, je sais que je suis un peu plus faible à vélo par rapport à la natation et la course à pied. Donc, je bosse mon vélo. Bon, je bosse aussi le reste, mais c'est sûr que je suis impliqué. Ouais. Je suis impliqué dans les 3 disciplines, mais à vélo, ouais, j'essaye de m'impliquer encore plus pour combler ce retard. Et là, cette année, j'ai été content en bourg de poser que à 3 minutes 30 de Christian et que à 1 minute 20 des gars du groupe entre lui et moi qui ont des belles références aussi à vélo.
Ouais, il y a des gros ouais. Bons cyclistes. Hein. Et hyper, hyper intéressant. C'est quoi tes parcours préférés? Je change un peu de question.
On a parlé un peu de Nice et de son dénivelé. on lutte pas contre la gravité, donc moi j'aime bien quand c'est plat. Quoi. Où on reste et on tient la position le plus longtemps possible.
Ouais. Donc
c'est par rapport à mon physique.
Il y a des parcours aux États-Unis qui sont très plats. Hambourg, très plat.
Francfort, ça va encore. 1003, 1004 de dénivelé positif.
Ok.
Klagenfurt, il y avait 1006.
Il n'y a pas Roth et
Lanzarote? Si, il y a Roth aussi. Alors, Lanzarote, il y a un peu plus de 2000.
Ouais, donc ça commence à faire.
Après, il y a 2000, mais beaucoup de vent. Donc, je pense que le poids là, il joue moins que sur un parcours comme Nice. J'ai pas fait encore Lanzarote.
Ok. Elles sont belles, tu vois. Moi, j'y vais un peu plus pour les paysages, tu vois. Donc, en termes de paysages, tiens, c'est quoi les endroits où, des moments où tu as pris le temps de une seconde de lever la tête du vélo et de te dire waouh, là, je suis.
J'ai beaucoup aimé Cairns en Australie.
Ok.
C'est beau.
C'est au milieu du désert.
Non, c'est en bord. C'est en bord d'océan. C'est là-bas où il y a la barrière de corail. C'est une végétation un peu de pays humide et chaud, quoi. Mais ouais, c'est beau. Il y avait des belles plages, des belles vues. Après, j'en ai vu beaucoup des endroits, mais si je dois en retenir qu'un, ouais, c'est Cairns.
Ok, cool. Bah, écoute, merci pour la reco. T'en as fait quand même 24, quoi. Donc,
j'ai fait plusieurs fois le même, quand même.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, si tu dois être de bonnes recommandations pour les parcours.
Et en plus, les organisations en Australie, elles sont bien.
C'est vrai, c'est hyper professionnel.
Ouais, c'est pro, mais ça reste bonne ambiance.
Ouais.
C'est pas stressant.
Ok.
C'est pas quand tu rentres dans le parc à vélo. Un peu militarisé comme des fois on a sur certaines courses en Europe. Tout le monde est à la cool là-bas. Mais pro, mais à la cool.
Ok. Mais ça étonne pas les Australiens. Il fallait qu'on en parle un peu. Tu vois, si on parle de tous les parcours, il y en a un qui est mythique pour les triathlètes, que tu connais bien aussi, dont tu as fait ta meilleure perf en fin 2022.
14, oui.
14e. Donc déjà
14, mais malade.
Ah, t'avais quoi?
Eh ben, j'avais le Covid, mais je le savais pas forcément. Sinon, j'aurais pas fait la course. C'est le lendemain, j'étais cloué au lit, 42 fièvres.
Ok.
Voilà. Donc, alors, énormément de personnes m'ont dit, mais pourquoi t'es déçu? T'es 14e, c'est ta meilleure perf là-bas, tu fais une belle course. Mais oui, mais moi, le jour J, j'étais pas en forme, j'étais pas bien. Et là, je pense que vu le chrono et la perf que j'ai fait en bourre, peut-être que certaines personnes comprendront mieux le fait que je sois déçu de mon 14e, de ma 14e place à Hawaï. J'espère encore faire la course là-bas à Hawaï.
Bien sûr. C'est le rêve ultime?
De réussir à faire une course en fonction de mes capacités à Hawaï, je sais pas. C'est un objectif, c'est pas un rêve. Moi, j'aime pas quand on dit il faut vivre ses rêves. Moi, j'ai envie de dire il faut vivre. Enfin, vivez vos rêves et puis réveillez-vous, quoi.
Mettez-vous au boulot.
Non, pas mettez-vous au boulot, mais la vie, c'est pas un rêve. Enfin, c'est pas des rêves. Mais non, l'objectif, c'est de faire une bonne course maintenant à Hawaï. J'en ai fait des belles ailleurs. On va dire qu'il me manque que ça pour que je me dise, ouais, ma carrière, j'ai fait tout ce que je voulais faire. C'est faire une belle course à Hawaï, oui.
Ok. Ouais. Donner le maximum, quoi.
Alors, je l'ai déjà donné le maximum. Mais...
ouais, excuse-moi, je voulais pas dire ça. Faire une course où tout est aligné et tu te sens bien et t'as pas.
C'est ça, ouais. Mais j'y crois.
Mais bien sûr, ça va arriver. Bien sûr, il y a aucun doute. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour toi sur cette course? Hormis l'histoire, tu vois, et hormis
ouais,
le fait
bah
que...
Alors, c'est une course où il fait chaud, il fait très humide, quoi. Et enfin, c'est un climat... Enfin, c'est Hawaï. Et en plus, le marathon, il se fait sur une autoroute où il n'y a pas d'ombre. Le goudron, il renvoie la chaleur. Enfin, c'est ça qui la rend dure, cette course.
C'est quoi, ces quatre boucles?
Ah ouais, non, il y a une boucle à vélo et une boucle à pied.
Là, ça fait la sixième fois que tu la faisais, c'est ça?
Alors, j'ai fait 6 fois le championnat du monde Ironman, mais il y a une participation qui a eu lieu à Saint-Georges, dans l'Utah, en mai 2022.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a un Hawaï qui a été
décalé,
annulé carrément l'année du Covid, et le 2021 a été décalé une première fois en février 22 à Hawaï, et puis qui a été redécalé et déplacé à Saint-Georges dans l'Utah en mai 2022. Ouais, mais... Donc j'ai fait 5 fois Hawaï et 6 fois le championnat du monde Ironman.
Ok. Et tu me disais juste avant de commencer l'interview que c'était une course pas bête noire, mais tu vois, c'est une sur laquelle
J'ai jamais été bon, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup, si tu peux les rappeler?
Alors la première, j'étais malade, j'ai abandonné le premier way, j'ai abandonné après 60 km de vélo.
Dur. Ouais.
Dur, ouais, surtout à Hawaï, quoi. Tu traverses la planète, tu bâches à 60 bornes, c'est pas facile. Bon, la deuxième. C'était en 2016, je fais 23e, pas si mal, 23e, ça va. 2017, j'ai sauté en course à pied, parce que j'ai pris un coup de chaud. 2018, j'ai été le premier sur le vélo AT1, et j'étais l'avant-dernier pro à descendre du vélo. J'ai pris une valise à vélo, mais cette course m'a beaucoup servi, parce que j'ai pris une valise à vélo, je pars dépité sur le marathon, au bout de 3 bornes, je vois ma femme, je m'arrête, même pas 3 bornes, 1 km. Je dis, allez, j'arrête, on rentre... C'est bon, elle me dit, bon, ok, si tu veux, je te ramène. Sauf que l'hôtel est sur le parcours, en rentrant en voiture. Enfin, la partie est sur le parcours, en rentrant en voiture, on va mettre plus de temps que si tu vas en courant. Donc, bon, ok, j'y vais, je cours, je passe devant. Il y avait une petite boucle sur un lead ride, je fais, bon, allez, je refais la boucle. Après, je repasse devant, je me vois regarder, je fais, allez, je finis quand même. Et voilà, et ça m'a beaucoup servi parce que j'ai réussi à changer d'état d'esprit. Et finalement, ce jour-là, je crois que je fais 26e. Alors, je dois poser 45 ou 46e le vélo.
Ouais,
donc,
ça fait du bien au moral.
Ouais, et puis après, bah, quand tu reprends du monde, tu changes d'état d'esprit, et donc ça m'a beaucoup servi pour la suite. Mai 2022, j'ai abandonné à Saint-Georges, je suis arrivé surentraîné, pas la niaque. C'est ce qui a conduit aussi à mon changement d'entraîneur.
Ok.
Et bah là, malade en octobre 2022, quoi.
14e malade, tout va
ouais,
bien.
Ouais, non, mais ouais.
Mais on attend de te voir en forme. Mais waouh, quand même, tu vois. Il y a une sacrée histoire avec cette course.
Ouais. J'espère que les plus belles pages sont à écrire.
Bah, c'est sûr. C'est sûr. Tu vas faire un travail spécifique, tu vois, je sais pas, sur que ce soit psychologique, sur la chaleur, sur les conditions de là-bas. Tu vas mettre des choses en place spécifiquement pour ça?
Alors là, en 2022, j'avais un peu changé ma façon d'aborder cette course. Et je pense qu'on l'avait bien abordé. J'ai pas eu de chance d'attraper... Enfin, d'être malade. Mais je pense que les 3-4 jours avant, je me sentais vraiment bien. J'étais au niveau de Hambourg. Donc, refaire dans le même style, arriver 2 semaines et demie avant, histoire de justement m'habituer au climat de l'île, faire la dernière ligne droite de la prépa sur place, prendre mes repères. Ça, ouais, si ça s'est joué à un jour ou deux, j'aurais pu faire une grosse course. Mais après, à un jour ou deux, je prenais pas le départ parce que j'étais cloué au lit, quoi.
Donc... Ouais, ça va dans un sens comme dans l'autre, quoi. Après, le lendemain, c'est normal aussi de tomber plus facilement malade. C'était...
Ouais, mais je sentais dans la course que j'avais pas... J'avais mal aux muscles. Bah alors, sur un Ironman, on a mal aux muscles. Mais là, plutôt que d'habitude, et pas comme d'habitude, et en course à pied, j'arrivais pas à remplir... J'avais l'impression qu'à un moment, j'arrivais plus à remplir les poumons, enfin... J'avais des crampes un peu au diaphragme, enfin, à cause de ça, parce que je forçais pour les remplir et j'avais l'impression, la sensation d'être asphyxié, quoi.
Ouais.
Donc, et ouais, c'est mon plus mauvais marathon à Hawaï en 2022, depuis 2018, je crois. Ouais. Bah, depuis Hawaï 2018.
Ok, ouais. Ouais, donc il s'est passé un truc, quoi.
Ouais, mais après, c'est comme ça, hein.
Bien sûr. Écoute, on a pas mal fait le tour, mais je vais quand même... j'ai des petites un peu pour la fin on a été mis en relation tu vois notamment dans le contexte d'une course que tu vas faire cet été
la Iota
qui est une course particulière nouvelle en France donc c'est plutôt un swimrun pas vraiment un swimrun
ouais
tu vas-y comment tu l'expliques avec tes mots
alors c'est l'enchaînement puisque tu parles de swimrun moi j'ai plutôt envie de dire c'est l'enchaînement de plusieurs aquathlons
ouais c'est vrai t'as raison
alors c'est une course c'est 1 km de natation 8 km de course à pied c'est départ toutes les 60 minutes et potentiellement il y a 5 manches et pour aller d'une manche à l'autre alors pour aller en deuxième manche il faut courir en moins de 60 minutes pour aller en troisième manche moins de 55 ensuite moins de 50 et ensuite moins de 45
on termine cramé
il y a aussi pour ceux qui trouvent que c'est trop il y a la Iota XPS, donc c'est 500 mètres de natation et 4 km de course à pied. Donc pareil, potentiellement 5 manches. Et c'est une course aussi qu'on peut faire en relais. Donc un nageur qui a peur de courir, il peut trouver un coureur. Un coureur, il peut trouver un nageur. Et il y a une très bonne ambiance avec les deux animateurs, Hervé et Eric. Donc ouais, c'est une belle course. Puis ce que j'aime bien dans cette course aussi, c'est que... Les gars du cours peuvent... Enfin, on rencontre des gars du cours. Moi, je viens du long, je rencontre des gars du cours. C'est Pierre Lecor qui a gagné l'an passé.
Ouais.
Et d'ailleurs, je pensais que ça serait plus dur que ça. Et donc, j'ai trop géré au début en pensant qu'on allait vraiment être cramé sur la dernière manche. Mais en fait, non, parce qu'il y a de la récup entre les manches.
Ouais, et ça change
tout. Ça change tout parce que bah, tu peux te ravitailler, tu peux t'étirer un peu, tu peux te faire masser, tu peux faire du home trainer. Il y a Etienne Desmunch qui avait mis home trainer dans le parc à vélo. Enfin non, pas dans le parc à vélo vu qu'il n'y a pas de vélo, mais dans le parc de transition. Non, c'est une belle course. Et aussi un côté stratégique, comment gérer ma course. Moi, l'an dernier, clairement, j'ai fait une erreur de stratégie. Est-ce que j'utilise le matériel ou pas? Parce qu'en natation, on peut utiliser plaquettes, pull boy, combinaison néoprène.
Ouais.
Il y a un petit côté stratégique. Est-ce que je fais ma course ou est-ce que j'essaye de m'adapter aux autres. Moi, l'an dernier, j'étais parti sur le principe de faire ma course et que ça allait craquer. Bah non. Et donc, j'ai été mis forcément hors jeu parce que j'ai vraiment fait les deux premières manches trop souples. Quoi. Parce qu'en gros, la dernière manche, ça part en poursuite en fonction des résultats des quatre premières manches. Et moi, j'étais trop loin. Alors, j'aurais pas joué le podium parce que Pierre était... j'aurais pas joué la gagne parce que Pierre était vraiment au-dessus du lot. Mais j'aurais au moins pu jouer la troisième place face à Étienne, je pense, si au début, j'avais géré différemment. Donc cette année, pour ceux qui m'écoutent, faut faire la première manche à bloc de chez à bloc.
Il va envoyer tout le monde au carton. Tout le monde cramé dès le début. Mais c'était quoi le... Tu sais, sur le papier, c'est une course tout nouvelle, c'est un nouveau format. Je ne l'ai pas vu même spécialement, tu vois, en Europe, tu vois, d'autres courses un peu de ce format-là. Alors dis-moi si je me trompe, hein, c'est toi qui dois être un peu plus expert. Qu'est-ce qui t'a tenté, toi, tu vois, en tant qu'athlète, d'intégrer ça dans ta préparation, alors que c'est un peu nouveau, c'est un peu différent, il y a un petit côté un peu chaud, justement, avec ce côté manche et tout. Qu'est-ce qui t'a plu, toi? Qu'est-ce qui a fait que t'as dit oui?
Alors moi, déjà, c'est que c'était pas si loin de chez moi. Forcément, j'ai pas à traverser la planète, donc une nouvelle course, un nouveau format qui a l'air sympa, pas loin de chez moi, ça m'intéresse. En plus, les distances... dans le milieu, on sait que je suis un gros coureur et je viens de la natation, donc c'était une course sur le papier qui me correspondait bien. Et puis l'enchaînement des manches, ça, avoir les petites barrières, c'est un peu comme il y a des courses où c'est le dernier survivant. Hein. Ça m'a aussi poussé à venir. Puis aussi le fait d'affronter, comme j'ai dit tout à l'heure, des athlètes qui viennent d'autres circuits. Donc j'ai dit de courte distance, mais il y a aussi des swimrunners, enfin...
Ouais, il y a différents profils.
Ouais. C'est ça, on peut se retrouver sur ce genre de course.
Ouais, ce qui n'arrive pas en dehors de...
Ouais, et puis il y a une bonne ambiance. Là, cette année, on va être une trentaine de mon club à participer, le Rougeau Bonne Triathlon. Donc ça permet de passer des moments ensemble. Ouais,
Ils sont venus en masse, les mecs.
Bon, on n'est pas loin, hein, de Beaune à Vichy.
Ouais, c'est quoi? C'est une heure et demie de voiture, même?
Ouais, 2 heures.
Ouais, 2 heures, ok. Ouais, donc ça vaut le coup.
Ouais.
Bon, bah écoute, très cool. Très, très cool. Et comment est-ce que tu l'intègres dans ta prépa un peu plus globale? Tu vois, justement, bon, ça tombe bien parce que c'est en amont, tu vois, par rapport aux grosses échéances, j'imagine, pour toi. Mais est-ce que tu fais un peu de prépa spécifique ou au contraire, tu te dis, bon, c'est un week-end sur lequel je vais me donner à fond
Alors, l'an dernier, c'était plus parce que c'était 4 semaines après l'Ironman de Francfort l'an dernier. Donc, j'ai pas pu faire de prépa spécifique parce qu'il fallait récupérer de l'Ironman sans compromettre la fin de saison, dont l'Ironman d'Hawaï. Donc, c'était plus, je fais un gros week-end à fond. Hein. Et cette année, on va pouvoir un peu plus le préparer. Quand je dis on, c'est toujours avec mon entraîneur. On va pouvoir le préparer un peu plus. Alors, je vais pas faire une prépa spécifique pour avoir un pic de forme parce qu'on peut pas en avoir non plus 36 dans l'année.
Ça, c'est clair. Ouais.
Mais j'espère bien être au moins 95%. En tout cas, je serai plus en forme que l'an dernier. Ouais.
Ok. Okay.
Et c'est ma seule course au calendrier au mois de juillet. Donc, c'est au mois de juillet, c'est mon objectif.
Ouais, parce que toi, tu cours beaucoup quand même.
Bah non, justement. Moi, je suis pas réputé pour courir beaucoup. Ouais. Cette année, j'ai que 2 courses pour l'instant, par exemple.
Je voyais en 2022, tu fais...
Je fais 6 courses.
Ah, c'est quand même pas mal, hein.
Bah, comparé à d'autres sur le longue distance, non.
Ah ouais ? Ok.
Ouais.
Ok, j'aurais dit, ok, 2-3 Ironman dans l'année, c'est tout.
Ouais, j'en ai fait 3.
Ok.
Plus ma bâche à Saint-Georges, mais il compte pas celui-là.
Ouais, mais quand même pas mal, quoi. Faut se les avaler, quoi.
On a l'entraînement pour le faire. Et j'en ai fait 3 l'an dernier, mais le dernier, je l'ai fait fin novembre. Et j'ai fait le premier à Hambourg au début juin. Donc il y a eu 6 mois entre les deux où j'ai pu faire une vraie coupure, une vraie prépa.
Ok. Et comment est-ce que tu intègres les formats plus half, les plus courts parce que tu en fais quelques-uns aussi. Est-ce que c'est les formats que tu intègres dans ta prépa, mais l'objectif c'est le long, ça reste le long
et... Pour moi l'objectif c'est l'Ironman, je pense que ça correspond plus à mes qualités d'endurance, et encore je pense que sur Alf, maintenant que je me découvre un peu à vélo, je pourrais peut-être être meilleur que ce que je pensais, mais pour moi l'objectif c'est l'Ironman et c'est Hawaï, donc en gros tous les Alf pour moi c'est en prépa d'un Ironman, c'est inclus dans la prépa. Là, j'ai fait Hambourg il y a 10 jours. 2 semaines avant, j'ai fait l'Ironman d'Aix-en-Provence, l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence. Mais 2 semaines avant, tu peux pas vouloir avoir un pic sur les deux. Donc j'y suis allé, c'était inclus dans la prépa. Et c'était une course de reprise, une grande répétition avant Hambourg. Et j'ai bien fait. Parce que j'ai un peu bafouillé mes transitions. Enfin, quand tu cours pas depuis 6 mois, tu perds un peu.
Ouais, bien sûr, des petits repères. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, c'est mes Alphes, c'est 99% des Alphes que j'ai fait, c'était en prépa, quoi.
Okay.
Et la seule fois où j'ai essayé de préparer un Alf, je me suis raté.
C'était lequel ?
C'était même pas un Alf, c'était l'an dernier, c'était le championnat du monde longue distance ITU à Saint-Morin.
Ouais.
Donc c'était 2 km de natation, 80 vélos et 18 km en course à pied. J'avais pas été bon à vélo.
Et ouais, c'était marrant de te voir sur le format ITU. Dommage que ouais, la distance, elle est pas trop valorisée, quoi, malheureusement. Bah, elle est moins médiatisée.
Ouais,
et
d'accord.
Moins,
tu vois. L'Ironman, tu veux dire.
Comparé au format Ironman, tu vois. Et comparé au format olympique, tu vois aussi.
Après, l'ITU, le longue distance ITU, c'est qu'en gros, il y a une course qui potentiellement peut être médiatisée par an, c'est le championnat du monde. Donc,
Ouais, c'est ça. C'est tout le circuit qui est un peu particulier. Mais ok, très, très clair. Et du coup, tu le places, ouais, l'ALF, tu vas essayer de le.
Entre deux et cinq semaines avant.
Ok. Très clair.
Ça dépend des opportunités de course qu'il y a. Parce que souvent, j'essaie de placer un Alf qui a le même profil que l'Ironman, ce qui correspond pas du tout à Aix et Hambourg.
Ouais, parce que Aix
et Vallonnet, Hambourg, c'est tout plat.
Aix, ça bouge bien quand même.
Ouais, mais l'avantage d'Aix, c'était à 3 heures en voiture dans la maison. Donc,
ouais, c'est clair.
Ça joue.
Puis ouais, être juste à côté, c'est quand même important, ouais. Quoi. Aussi pour faire le plein avec les supporters. Ok, trop cool. Écoute, je vois que j'ai un peu fait le tour de mes questions. J'avais noté tes chiffres parce que je sais que t'aimais bien publier un peu ton recap de fin d'année. T'aimes bien suivre ton volume d'entraînement très précisément tous les ans, mesurer.
Alors j'aime bien regarder en fin d'année ce que j'ai fait, comme ça, ça me permet de comparer aux saisons précédentes, mais dans l'année en elle-même, je regarde pas combien de kilomètres j'en suis, de temps en temps je regarde le volume horaire hebdomadaire, mais je l'ai même pas encore regardé cette année en 2023. À la fin d'année, si, j'aime bien avoir mes datas, et comme ça, ma fin de carrière professionnelle, je pourrais dire j'ai fait tant de kilomètres à vélo dans ma carrière professionnelle, en course à pied, en natation, ça pourrait être marrant. Je pense que ça va faire des grosses données quand même.
Ah ouais, à la fin.
Parce que ouais, si je vais jusqu'à 40, ça me fera 17 ans de triathlon professionnel, donc 17 ans, ça peut faire un petit 250 000 à vélo. Fin...
Ouais, il y a moyen, ouais.
Ouais.
Bah là, sur une année, avec les chiffres que j'ai effectivement sous les yeux, l'année dernière, t'as fait 17 024 km de vélo.
Alors l'année dernière, c'était une saison particulière parce que...
Elle était plus longue que d'habitude.
Ouais, ma saison, elle a duré 55 semaines parce que j'avais repris début novembre. J'ai repris début novembre 2021 la saison parce que je l'avais terminée en début octobre. Et je l'ai terminée fin novembre 2022, donc 55 semaines. Donc c'est pour ça que c'est bien de ramener à la semaine ce que je fais toutes les saisons.
Ouais. Ouais, mais ouais, ça fait quand même 1043 km de natation, 17 024 de vélo, 3576 de course à pied, ça rigole pas du tout. Écoute, c'était trop bien, Denis, je me suis régalé à pouvoir rentrer dans la technique, tu vois, avec toi et comprendre un peu mieux comment tu progresses, comment tu repousses tes limites et comment tu dures aussi dans le temps, parce que c'est aussi ça la clé. Comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui
font 2-3 saisons et carré, toi.
Donc, aussi parce qu'il n'y a pas la passion, mais toi, je sens que...
Il y a la passion, mais il y en a qui ont la passion, mais qui ont fini, entre guillemets, cassés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un premier entraîneur qui a toujours pensé long terme. Lui, il a couru en pro jusqu'à 48 ans, 47. Il a toujours pensé long terme et il ne voulait pas que j'ai des résultats tout de suite au détriment d'une potentielle longue carrière, quoi. Donc on a pris le temps, moi je suis un nageur, les nageurs quand ils se mettent à courir, ils sont fragiles. Hein. Il y en a énormément qui ont des périostites, des fractures de fatigue. Alors moi j'ai eu une périostite, j'ai pas eu de fracture de fatigue, mais parce que on avait bien géré quoi.
Ouais, bien sûr, faut y aller mollo.
Ce qui me permet de mettre des gros volumes d'entraînement maintenant sans me blesser, ouais.
Ah, ok. J'ai une toute dernière question que je pose à tous les athlètes. C'est pas un passage de flambeau olympique, c'est un passage de micro. C'est de savoir à quel athlète tu me recommandes, tu vois, d'aller discuter, tu vois, sur un format un peu comme celui-ci où on pourrait un peu creuser. Alors, soit c'est pour aller voir les copains des copains, soit c'est pour aller voir tiens un athlète que t'aimes beaucoup mais que tu connais pas, tu vois, et que t'aimerais bien découvrir sur un format un peu long et voir ce qu'il a à dire. Mais qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir ?
Alors, c'est pas le copain d'un copain, c'est mon entraîneur. Parce que c'est Cyril Viennot, donc il m'entraîne. Il a fait 5 et 6 Hawaï, donc un très bon athlète longue distance. Maintenant, il est guide de Thibaut Rigaudot. Donc, je pense qu'il doit avoir des belles choses à raconter. Et en plus, il se lance dans l'entraînement maintenant. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire un podcast avec lui.
Ouais, bah écoute, j'étais avec Pierre-Antoine il n'y a pas très longtemps.
D'accord, oui.
Pierre-Antoine Bell, tu vois, et qui m'a dit ouais, faut que tu ailles interviewer les deux. C'est le duo veut le détour. Donc,
alors, moi, je pense que le duo veut le détour.
Thibaut aussi.
On s'est croisés, mais pas trop. Mais je pense que le duo veut le détour, mais Cyril aussi, pour sa carrière à lui.
Bien sûr. Bien sûr.
Ça peut être intéressant, ouais.
Ouais, il a des choses à raconter.
Tu veux son numéro ?
on s'en reparle, et carrément. Écoute, merci infiniment, Denis. C'était un pur bonheur de partager ce moment avec toi. J'espère que t'as apprécié aussi.
J'ai apprécié, merci, ouais.
Bon, bah écoute, cool. Et puis, on se croisera sûrement sur une course. J'espère en tout cas revenir au plus vite. Et puis, comme on dit par chez moi, il n'y a que les montagnes qui se recroisent pas. Donc à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.